Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 12 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Nigeria, 8 morts et 10 blessés graves dans l'effondrement d'un immeuble à Lagos. Le président sud-africain a appelé au calme après le meurtre d'un fermier blanc. Deux suspects ont été arrêtés. 9 corps de migrants ont été repêchés, dont celui d'un bébé, après un naufrage au large de la Tunisie dimanche. Le Sénat américain entame le processus de confirmation de la juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême. Poursuite des combats au Nagorno-Karabakh en violation d'un accord de trêve négocié sous l'égide de la Russie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Un mort au Nigeria dans de nouvelles manifestations contre les violences policières qui ont rassemblé ce lundi des milliers de personnes dans plusieurs villes. Malgré la dissolution la veille d'une unité de police controversée, à Lagos, les manifestants ont bloqué les principaux axes routiers et l'aéroport. Les manifestations ont dégénéré et un manifestant a été tué. Le président Muhammadu Buhari a ordonné une enquête sur ce décès. Dans l'état d'Oyo, un autre manifestant a été tué samedi, portant à 4 le nombre de morts depuis une semaine. Au Nigeria toujours, 8 personnes ont été tuées dimanche dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages en construction à Lagos. Une dizaine de personnes sont gravement blessées. Jacques Aristide.
Les services de nettoyage de Lagos déblayaient aujourd'hui les restes de cet immeuble. Une pelleteuse sortait des gravats, des tas de ferrailles et de grands échafaudages en bois brisés dans l'effondrement, dont les causes ne sont pas encore établies. Des dizaines de personnes étaient venues assister aux opérations de déblayage qui devraient durer toute la journée. L'accident s'est produit à Obalende, un quartier populaire de la capitale économique. Les corps de 6 hommes et 2 femmes ont été sortis des décombres, d'après les secours de Lagos, qui ajoutent que 20 personnes ont été retrouvées vivantes, dont 10 blessées graves, qui ont été transportées à l'hôpital. L'immeuble a commencé à s'affaisser et personne n'a pu s'enfuir. Personne, raconte un témoin. Les secours ne sont pas arrivés tout de suite. Ce sont les habitants de Balende qui sont allés les aider à sortir de là, ajoute-t-il. L'effondrement de bâtiments est une tragédie fréquente au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, où des millions de personnes vivent dans des immeubles délabrés et où la législation concernant la construction est régulièrement bafouée.
Le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a dit dimanche à Bamako avoir bon espoir que les autorités de transition maliennes respectent leurs engagements. Une déclaration faite 5 jours après la levée des sanctions de la CEDEAO. Le président libérien George Weah a indiqué avoir sollicité l'aide d'experts américains pour enquêter sur la mort mystérieuse de 3 agents du fisc et d'un contrôleur des dépenses gouvernementales depuis le début du mois. Le premier est un agent de l'autorité fiscale du Libéria qui a perdu la vie le 4 octobre dans un accident de voiture à Monrovia. Le lendemain, 2 autres employés de la même agence ont été retrouvés morts dans une voiture dans un parking de la capitale. En République démocratique du Congo, après 6 mois de fermeture des classes pour cause de Covid-19, la rentrée a repris ce lundi. Des millions d'enfants doivent reprendre le chemin de l'école. La gratuité de l'enseignement a été décrétée par le président Félix Tshisekedi lors de la précédente rentrée. Ce coût de la gratuité est évalué à quelque 2,64 milliards de dollars par an, selon des experts du gouvernement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé au calme après une manifestation contre le meurtre d'un fermier blanc. Les 2 suspects ont été arrêtés. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cyril Ramaphosa a souligné que les tensions raciales liées à ces incidents rappelaient tristement que l'Afrique du Sud restait en convalescence du régime de l'apartheid. Il serait naïf de partir du principe que les relations raciales dans les zones rurales sont harmonieuses depuis l'avènement de la démocratie, écrit Cyril Ramaphosa dans un communiqué publié par la présidence. Mais si nous n'abordons pas cette question de façon ouverte et honnête, elle restera une plaie purulente qui menace la cohésion sociale, juge-t-il. Pour le président sud-africain, le pays doit résister à toute tentative d'utiliser les crimes dans les fermes pour mobiliser des communautés selon des lignes raciales. Cela ne devrait faire aucune différence que la victime d'un crime violent soit noire ou blanche. La tension est subitement montée vendredi avec une accusation de terrorisme portée contre le meneur présumé d'une manifestation de fermiers blancs. Ils avaient mis le feu à une voiture de police devant le tribunal où étaient entendus les suspects noirs du meurtre d'un fermier blanc. AfriForum, un groupe de pression qui défend les intérêts de la minorité blanche, a affirmé que 292 attaques visant des fermiers blancs avaient été recensées cette année, dont 38 meurtres.
Les autorités tanzaniennes ont accru la répression des opposants politiques pour entraver leur tentative de faire campagne à l'approche des élections du 28 octobre, dénonce Amnesty International dans un nouveau rapport. Le président John Magufuli, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire, brigue un second mandat. Le gouvernement israélien a donné son feu vert pour l'immigration de 2000 Éthiopiens de la communauté des Falashmora au titre du regroupement familial. Les Falashmora, qui affirment être des descendants des Juifs éthiopiens, ne bénéficient pas de la loi du retour permettant à tout Juif de la diaspora d'immigrer en Israël et d'en devenir automatiquement citoyen.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Sénat américain a entamé le processus de confirmation de la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président Donald Trump à la Cour suprême. Une audition qui devrait faire l'objet d'âpres échanges entre les élus à 3 semaines de la présidentielle. Mohamed Oumfa pour les détails.
Sénateurs démocrates et républicains sont divisés sur le processus qui doit aboutir à la confirmation d'Amy Coney Barrett comme juge à la Cour suprême. Les démocrates réclament d'attendre le verdict de la présidentielle du 3 novembre pour pouvoir se poster à vie extrêmement influent, mais Donald Trump veut avancer au plus vite pour satisfaire les électeurs de la droite religieuse. Ce matin, le sénateur républicain Lindsey Graham, qui préside la commission judiciaire du Sénat, a clairement souligné l'enjeu pour son camp. Cela aide le président Trump, a-t-il affirmé. Malgré leur opposition, les démocrates ont peu de moyens de bloquer le processus. Les républicains disposent d'une majorité de 53 sièges sur 100 à la Chambre haute du Congrès. Par ailleurs, Mitch McConnell, le chef des Républicains au Sénat, contrôle le calendrier et la procédure. Amy Coney Barrett, 48 ans, a été choisie le 26 septembre par le président Trump pour succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée 8 jours plus tôt des suites d'un cancer. Conformément à la Constitution, elle doit obtenir l'aval du Sénat pour entrer dans le temple du droit américain où siègent déjà 5 juges conservateurs sur 9.
Les combats entre séparatistes arméniens et militaires azerbaïdjanais se poursuivent dans la région du Haut-Karabakh, malgré une trêve négociée sous l'égide de la Russie qui devait entrer en vigueur samedi. Dividico nous en dit plus.
Si la capitale séparatiste n'a pas essuyé de tir durant la nuit, les journalistes sur place rapportent néanmoins des affrontements ailleurs durant la journée, alors que les diplomates s'affairent pour sauver la trêve. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a reçu son homologue arménien à Moscou, a appelé les belligérants à cesser les hostilités en vertu de l'accord trouvé samedi. D'autres appels sont venus de l'Union européenne, de l'Iran, un pays voisin, et du Vatican pour exhorter les séparatistes arméniens et l'armée azerbaïdjanaise à la retenue. Cependant, aucun des deux camps n'accepte la responsabilité d'avoir violé le cessez-le-feu. Les récents combats ont fait au moins 500 morts dans ce conflit qui avait entraîné une guerre sanglante il y a une trentaine d'années avec un lourd bilan de 30 000 morts.
Laisser le coronavirus circuler librement dans la société pour que la population soit immunisée, comme certains l'ont suggéré, n'est pas une option, a déclaré le directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. En Inde, le nombre de cas déclarés a franchi le seuil des 7 millions. En Grande-Bretagne, les autorités ont annoncé la réactivation de 3 hôpitaux de campagne et la fermeture des pubs à Liverpool. Une femme de 54 ans est devenue la première personne au Mexique à être contaminée par le coronavirus et la grippe, selon les autorités. Au moins 18 morts, plusieurs disparus et près de 46 000 personnes évacuées après des inondations dans le centre du Vietnam. Plus de 100 000 habitations ont été inondées dans les provinces de Quang Tri et Quang Nam. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Cameroun veut équilibrer sa balance commerciale extérieure et accroître la transformation locale du cacao à l'horizon 2030 pour créer plus d'emplois et de richesses dans la filière. Pour cela, Yaoundé vient de mettre sur pied un projet de relance de ce secteur lors du lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021. Il coûtera 28 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années. Le cacao génère 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et emploie environ 2 500 000 personnes au Cameroun. En Libye, la Compagnie nationale de pétrole annonce la levée de l'état de force majeure permettant la reprise de la production du brut à Al-Sharara après plus de 9 mois d'arrêt. La NOC a aussi conclu un accord d'honneur avec les groupes armés qui occupaient le site pour qu'ils lèvent tous les obstacles et évitent tout acte menaçant la sécurité des personnels et des opérations. Al-Sharara produit en temps normal 315 000 barils par jour sur une production nationale de plus d'un million de barils par jour.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. 12e titre pour le Raja Casablanca. Le championnat marocain 2019-2020 a connu son épilogue la nuit dernière. À l'issue de la 30e et dernière journée, le Raja l'a emporté devant son rival le Wydad Athletic Club. Les Verts ont battu l'AS FAR du Rabat 2-1 et le Wydad a dominé le FUS du Rabat sur le même score. C'est donc le statu quo en tête du Botola avec le Raja qui termine avec 60 points, soit un de plus que le Wydad. Le point avec Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca.
Mais Manfred Hitchcock n'aurait pas pu imaginer pareil scénario. En effet, le dénouement du championnat marocain était une suite de rebondissements plus étonnants les uns que les autres. Entre un Raja qui avait son destin en main et un Wydad qui devait gagner et attendre un cadeau de l'AS FAR lors de la confrontation face au Vert et Blanc. Et puis pour compliquer le tout, une formation de Berkane prête à brouiller les cartes pour une place en moins en Ligue des Champions. Finalement, nous avons vécu 90 minutes d'anthologie avec un Raja sacré à la 92e minute. Un but de Hafidi lors de l'ultime souffle de la partie face au Phare a permis au Vert et Blanc de fêter le 12e titre de leur histoire. Un titre arraché à un Wydad qui s'est vu en haut de l'affiche après sa victoire in extremis devant le FUS à Rabat 2-1. Finalement, ce cru de la Botola a été le plus passionnant depuis 10 ans. Il consacre la formation la plus régulière depuis le retour de confinement. La fourmi Rajaoui a pris le pas sur la cigale Ouidadi après une édition palpitante. Une partie de Casablanca fait la fête alors qu'une autre moitié pense ses plaies. Depuis Casablanca, Amine Birouk pour VO Afrique.
Ici, en NBA, les Los Angeles Lakers ont été sacrés champions pour la 17e fois de leur histoire après avoir battu 106-93 le Heat de Miami dans la bulle de Disney World en Floride. Los Angeles, porté par sa superstar LeBron James, dont c'est le 4e titre en 10 finales disputées, a remporté l'édition 2020, 4 victoires à 2. Sur ce match numéro 6, les Lakers, plus agressifs en défense et adroits offensivement, ont plié très vite l'affaire en comptant jusqu'à 30 points d'avance en première période. En face, le Heat n'avait manifestement plus d'essence dans le réservoir. Après une série intense et éprouvante à l'image de Jimmy Butler, toujours courageux mais sans ressort, tout le contraire du King qui, à 35 ans, conserve toujours de beaux restes, en témoigne son triple double, 28 points, 14 rebonds et 10 passes décisives dans ce match numéro 6. Voici l'analyse qu'en fait Eugène Péoua Pelema, consultant en basketball.
Ceux qui gèrent le club ont fait ce qu'ils avaient à faire et cette équipe des Lakers a pu traverser toutes les embûches qui étaient sur leur chemin et avec leur leader qui est LeBron James. À la fin, les Lakers ont pu tenir le chemin Ils ont pu, même si la finale a été beaucoup plus compétitive, et c'est une bonne chose pour le basket en général, les Lakers sont prédominés et ils ont pu remporter ce 17e titre et s'annonce être aussi l'année prochaine une équipe sur laquelle il faudra compter.
Eugène Piwa Pelema, consultant en basketball, joint dans le Maryland.
Merci beaucoup Yatuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le premier tour de la présidentielle en Guinée, c'est dans moins d'une semaine, dimanche prochain, le 18 octobre. Le président qui sera élu aura comme priorité l'amélioration des services sociaux de base. Parmi ces services figure l'accès à l'eau potable qui fait défaut dans certains quartiers de la capitale. Le point sur cette problématique avec Zakaria Camara à Conakry.
À Dixine, quartier périphérique de Conakry, la pénurie d'eau potable est chronique. Ici, c'est dans des bidons de 20 litres que les habitants s'approvisionnent. Même s'ils peuvent vendre par jour jusqu'à 1000 bidons d'eau potable, Tamba Joseph souhaite voir les robinets couler dans un avenir proche.
C'est pour aider aussi la population, précisément la commune de Dixine à avoir d'eau. C'est la cause principale qui me pousse à me débrouiller, à me créer ce petit projet à Dixine. Par bidon, je vends à 500 francs. S'il n'y a pas l'eau dans un pays, dans une société, il y a des matières. Moi, je dis tout de suite au gouvernement vraiment de venir au secours de la population, précisément à Dixine, pour que vraiment la Dixine qui ait de l'eau.
Conakry connaît une urbanisation galopante et pour faire face à la pénurie d'eau potable dans la capitale, la SEG, Société des eaux de Guinée, a installé des cuves à eau ravitaillées par des camions-citernes. Malgré 4 points d'eau à Amdalaï Mosquée, la demande reste toujours grande, comme l'explique cette ménagère.
Nous n'avons pas quand même de l'eau sur les pompes là. On gagne de l'eau au niveau des fourrages avec les voisins. Pas tous les jours aussi. On va là-bas commander de l'eau. On gagne les lundis, à partir des soirs comme ça. Il y a deux sortes de fourrages ici. Pour les voisins et pour l'autre, pour le gouvernement.
Dans ce quartier de la vallée de Conakry, certains habitants gagnent de l'eau potable grâce à la générosité des familles qui se sont dotées d'un forage. Thierno Ousmane, propriétaire d'un puits d'eau.
8 ans, on n'a pas de l'eau ici, là, de la SEG. Notre forage ici, on a donné ça à 2 de nos voisins, plus la mosquée. Ça, c'est gratuit. À partir de 18 heures comme ça, on leur donne de l'eau.
Donner de l'eau potable à tous, c'est l'une des promesses de campagne des 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Et pourtant, ce sujet et d'autres sont peu commentés, laissant place aux attaques entre candidats. Il y a quelques jours, l'ONU a mis en garde contre les discours à relents ethniques en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dimanche, le 11 octobre, était célébrée la Journée internationale des droits des filles. Des millions de petites filles et d'adolescentes sont encore victimes de discrimination dans plusieurs régions du monde où elles sont ainsi extrêmement vulnérables. C'est le cas notamment dans le nord du Cameroun, où de nombreuses filles n'ont toujours pas accès à l'éducation et sont souvent mariées de force. Mouhamadou Oumfa a joint l'écrivaine féministe Djaili Amadou Amal, qui a elle-même été mariée de force à l'âge de 17 ans.
Dans toutes les zones sahéliennes, la petite fille n'est pas égale au petit garçon dès sa naissance. D'ailleurs, dans ma langue, pour annoncer la naissance d'une fille, on dira « elle a éloigné la famille », alors qu'on aura compris le petit garçon, lui, il aura rapproché la famille. La petite fille vit d'énormes discriminations dès le départ. Quelquefois, elle n'a pas d'acte de naissance, elle n'est pas inscrite à l'école, elle subit d'énormes discriminations liées à son genre. Quand la famille vit dans la précarité, on va privilégier l'éducation du petit garçon par rapport à celui de la petite fille, évidemment. Même quand elle rentre de l'école, elle est sujette. Bien entendu, le petit garçon peut lui aller jouer au foot pendant que la fille va s'atteler à des travaux domestiques. Ensuite, elle va vivre le mariage précoce et forcé. Il faut rappeler ici que le mariage précoce et forcé reste quand même une des violences les plus pernicieuses parce qu'elle entraîne toutes les autres formes de violence. Les violences physiques, le viol conjugal, les violences morales, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences esthétiques et j'en passe. Évidemment, quand elle n'a pas accès à l'éducation, elle n'a pas de diplôme. Quand elle n'a pas de diplôme, elle n'a évidemment pas d'emploi, donc elle reste dépendante de toute sa vie. Cette petite fille deviendra une femme donc qui subit des violences, une femme qui n'est pas instruite, une femme qui n'aura pas accès au crédit parce qu'évidemment, elle n'aura même pas de compte bancaire, une femme qui n'aura même pas accès aux terres qu'elle cultive parce qu'une femme ne mérite pas. Et j'en passe, on ne peut pas citer toutes les formes de violence que les femmes dans notre région sahélienne subissent. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai décidé de me battre en écrivant. Écrivant la violence et les, décrivant donc la violence et les douleurs de tous ces milliers de femmes qui n'ont pas voix au chapitre et qui vivent évidemment des choses. Je pense pour ma part que on ne peut changer les choses que par le biais de l'éducation. L'éducation des enfants, évidemment, mais aussi l'éducation des parents. Nous faisons généralement avec l'association que j'ai fondée beaucoup de sensibilisation, beaucoup de conseils éducatifs. On ne peut faire évoluer les choses qu'en donnant les mêmes chances à tout le monde.
C'était la féministe camerounaise Djaili Amadou Amal, auteure du livre « Les impatientes » qui parle notamment du mariage forcé des filles.
Avec vous, Washington Forum revient cette semaine sur la libération du leader politique malien Soumaïla Cissé et de l'humanitaire français Sophie Petronet en échange de l'élargissement de plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés. Il s'agit donc des premiers actes majeurs posés par le gouvernement de transition malien. Quelle lecture faire de cet échange de prisonniers? Pourrait-il ouvrir la voie à un dialogue entre Bamako et le groupe djihadiste ou va-t-il galvaniser ces derniers? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 15 octobre à 19h temps universel sur VOA et VOA Équateur.
Élections américaines 2020. Le président Donald Trump se dit prêt à reprendre ses déplacements de campagne en vue de la présidentielle du 3 novembre après sa récente hospitalisation en raison d'une infection au coronavirus. Pour sa part, l'ancien vice-président Joe Biden a prévu de se rendre dans l'Ohio cette semaine dans le cadre de cette course à la Maison-Blanche. Pendant ce temps, le Sénat américain entame l'audition de la juge Amy Coney Barrett, nommée par M. Trump à la Cour suprême. Michel Keane fait le point, le récit est de Jacques Aristide.
Tout d'abord, je me sens bien. Je ne sais pas pour vous. Comment va tout le monde ?
Un peu plus de trois semaines du scrutin, le président Donald Trump s'est dit prêt à repartir en campagne après s'être remis de la maladie Covid-19. Son médecin a publié un communiqué dimanche affirmant que le président républicain n'était plus considéré comme risquant de transmettre le virus à d'autres personnes. Le deuxième débat présidentiel qui était prévu cette semaine et qui avait été transformé en face-à-face virtuel a été annulé. L'actuel locataire de la maison Blanche a exclu de prendre part à ce duel virtuel avec son rival démocrate Joe Biden. Eric Trump, de l'équipe de campagne du président Trump.
C'est ainsi que les débats ont été organisés en Amérique au cours des 200 dernières années. Vous êtes là, debout, et vous débattez avec quelqu'un. Et mon père ne veut pas le faire par le truchement d'une conférence téléphonique glorifiée. Il veut monter sur scène, regarder quelqu'un dans les yeux, et Biden n'est pas disposé à faire ça.
L'équipe de campagne de Joe Biden indique que son candidat a hâte de débattre avec Donald Trump en personne le 22 octobre prochain si le président n'est plus infecté et suit les protocoles contrôle sanitaire. Bien que Biden devance Trump de 12 points dans un récent sondage national, les deux candidats mettent le cap sur les États clés, lesquels sont susceptibles de basculer d'un parti à l'autre. Cette semaine, le président Trump doit se rendre en Floride pour un rassemblement, puis en Pennsylvanie. L'ancien vice-président Biden va lui être dans l'Ohio. Les Américains ont déjà commencé à voter dans de nombreux États. Le taux de participation semble élevé dans le Wisconsin, un État pivot, ou dans le comté de Dane, un bastion démocrate. Le nombre de bulletins de vote soumis représente déjà plus de 36% du vote total enregistré dans ce comté en 2016, d'après le New York Times. La campagne de Biden demande aux gens de voter tôt et en personne dans les États qui leur permettent de le faire. Le démocrate Cédric Richmond, co-président de la campagne du candidat Biden.
Nous disons aux gens de profiter du vote anticipé en personne. Et écoutez, je suis sur le bulletin de vote et la Nouvelle-Orléans et la Louisiane ont commencé à voter. Et j'encourage les gens à profiter du processus de vote. Le vote anticipé en personne est un excellent moyen de le faire. Cela réduit les rangs le jour du scrutin.
Alors que la campagne bat son plein, le Sénat américain a donné le coup d'envoi ce lundi au processus de confirmation de la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis. L'audition constitue un nouveau débat sur l'avenir du pays. En cas de confirmation, la juge Barrett remplacera la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée en septembre dernier.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
La voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 octobre 1492, trois navires espagnols sous la direction de Christophe Colomb ont accosté sur une île de qui est aujourd'hui les Bahamas. Cet événement commémoré chaque année aux États-Unis lors du Columbus Day, la journée de Colomb, a lancé un vaste échange mondial de nourriture, d'animaux, de plantes, de personnes et de maladies ayant transformé le monde et qui est connu aujourd'hui comme l'échange colombien. De ce fait, l'année 1492 est considérée par beaucoup d'historiens comme la plus significative de l'histoire mondiale moderne. La population mondiale s'est multipliée par plus de 4 depuis 1492, doublant entre 1650 et 1850. Bien que certains facteurs soient responsables de cette énorme croissance démographique, les plus importants sont clairement l'accroissement et l'amélioration de l'approvisionnement alimentaire, l'apport du régime alimentaire des Indiens américains de cultures comme le maïs, la pomme de terre, la tomate, les arachides, l'ananas, le piment et le cacao constituent le facteur le plus significatif. La pomme de terre est devenue le plus important produit alimentaire pour les pauvres d'Europe centrale et du Nord. Le maïs et le manioc ont été introduits en Afrique au XVIe siècle, remplaçant les cultures traditionnelles africaines comme les plus importants produits vivriers. L'introduction en Chine des produits alimentaires du Nouveau Monde comme la pomme de terre, le maïs, les arachides a contribué à un boom de la population chinoise entre 1500 et 1650. Au XVIIIe siècle, plus d'un tiers de la population mondiale vivait en Chine. L'échange colombien était universel, introduisant de nouveaux produits alimentaires dans tous les coins du monde. Avant 1492, il n'y avait pas d'orange en Floride, de bananes en Équateur, de piment en Hongrie. l'échange à apporter, les tomates en Italie, le café en Colombie et en Indonésie, les ananas à Hawaï, les veillères en Afrique, le piment en Thaïlande, en Chine et en Inde, et le chocolat en Suisse. L'accostage de trois petits navires sur une île de Bahamas a apporté un changement sans précédent au cours de l'histoire. Il a façonné l'avenir de l'humanité pour les siècles à venir, non seulement à cause de la découverte d'un nouveau continent, mais parce qu'il a provoqué des contacts réguliers entre les hémisphères de la Terre, générant le commerce, permettant un échange d'idées et la création de connexions et de rencontres entre les cultures. En 1492, les peuples du monde ont commencé à se réunir en tant que société mondiale.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement.